Au revoir et à très bientôt. À la prochaine.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 30 décembre 2024. Pluie d'hommage à l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé à 100 ans. Au Mali, l'opposant Issa Kaoudjim écope de 2 ans de prison pour avoir critiqué les autorités burkinabées. En Guinée, les réactions se multiplient après l'arrestation de l'opposant Aliou Ba. En RDC, grève des médecins des hôpitaux publics pour protester contre des salaires insuffisants et des conditions de travail dégradées.
C'est depuis samedi 28 décembre que nous avions radicalisé, ça veut dire que les médecins ne vont plus être dans les hôpitaux. Les médecins vont rester chez eux à la maison et il n'y aura que 2 hôpitaux par jour qui vont s'occuper que des urgences.
Docteur Patrick Boloko, secrétaire exécutif du syndicat national des médecins de la RDC, nous fera le point dans la partie magazine. Le Kenya arrête des dizaines de manifestants appelant à la fin des enlèvements. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. L'actualité africaine. Pour commencer, un tribunal de Bamako a condamné aujourd'hui l'opposant Issa Kaoudjim à 2 ans de prison, dont 1 an ferme pour avoir critiqué les autorités militaires du Burkina Faso voisin. Il devra aussi payer une amende d'1 million de francs CFA, ont indiqué une source judiciaire et sa famille. Nani Talani.
Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, qui dépend d'un tribunal de Bamako, a reconnu Issa Kaoudjim, opposant et figure politique malienne, coupable d'offenses publiques envers un chef d'État étranger et d'injures par le biais d'un système d'information. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et à 1 million de francs CFA d'amende, a dit une source judiciaire. Cette condamnation fait suite à ses propos tenus lors d'une émission sur une télévision locale où M. Ndim a mis en doute la crédibilité d'un coup d'État présumé déjoué au Burkina Faso qui, avec le Mali et le Niger, ont créé l'Alliance des États du Sahel. Fermé par Bamako en raison des propos de M. Ndim, Djoliba TV News a écopé d'une suspension de 6 mois. Issa Kaoudjim, ancien vice-président du CNT, l'organe législatif au Mali, est en prison à Bamako. En 2021, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour atteinte au crédit de l'État après des propos jugés subversifs sur les réseaux sociaux. Il a ensuite été révoqué du CNT et interdit de quitter le territoire à plusieurs reprises.
En Guinée, des dizaines de personnalités de la société civile et des partis politiques exigent la libération immédiate d'un opposant arrêté pour offense au chef de la junte. Elles dénoncent aussi les exactions croissantes du pouvoir envers les voix critiques. L'opposition guinéenne dénonce un exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir et de multiples violations des droits. Eric Manirakiza.
L'interpellation jeudi dernier de l'opposant Aliou Ba, chef du mouvement démocratique libéral modèle, est la dernière en date d'une longue série dans le cadre des sévères restrictions des libertés imposées par le régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya qui a renversé le président civil Alpha Condé en 2021. L'arrestation arbitraire d'Aliou Ba s'inscrit dans la politique d'élimination systématique des personnes opposés à l'arbitraire, ont déclaré dans un communiqué 150 universitaires et journalistes. Un communiqué de la Fondation de l'innovation pour la démocratie signé par l'historien camerounais Achille Mbembe s'insurge du retour spectaculaire dans la région des violations graves des droits humains, de la restriction de l'espace civique, de la volonté de faire taire et de pousser à l'exil toutes les voix dissidentes qui s'accompagnent de la recrudescence d'enlèvements, de séquestrations, de kidnappings et de disparitions forcées. En plus d'Aliou Ba, 2 opposants sont portés disparus depuis leur arrestation par des hommes armés en juillet. Le lieu de détention du journaliste Habib Marouane Camara, arrêté le 4 décembre dans la banlieue de Conakry, reste inconnu. Par ailleurs, l'ancien chef d'état-major de l'armée et ex-numéro 2 du régime militaire, ainsi qu'un médecin, sont morts dans des circonstances obscures après leur arrestation.
Soudan, l'envoyé spécial de l'IGAD, Laurence Corbandi, prévoit une visite à Khartoum en janvier pour relancer les efforts de médiation dans le conflit opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Corbandi vise à engager un dialogue constructif pour restaurer la paix et réintégrer le Soudan au sein de l'IGAD malgré les accusations de crimes de guerre pesant sur les deux camps. Au Kenya, la police a tiré ce lundi des gaz lacrymogènes et arrêté des dizaines de manifestants qui protestaient pacifiquement contre une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes opposants qui suscite l'indignation dans le pays. Rosine Monizero.
Les forces de sécurité kenyanes ont été accusées d'être derrière des dizaines de disparitions à la suite des manifestations antigouvernementales durement réprimées de juin à juillet dans ce pays d'Afrique de l'Est. Au cours de ces manifestations, plus de 60 personnes ont été tuées selon des ONG. La dernière vague d'enlèvement qui a fait les gros titres au Kenya concerne principalement des jeunes hommes ayant critiqué le président William Ruto sur Internet. Lundi, des dizaines de manifestants ont répondu à un appel à manifester dans la capitale Nairobi, brandissant les pancartes à l'effigie de certains disparus, scandant leur nom et appelant à leur libération et la fin des enlèvements. Ce type d'exaction aurait dû prendre fin dans les années 90, a déclaré Nerima Wako de l'ONG Siasa, qui soutient la jeunesse, évoquant l'ère du président Daniel Arap Moi, synonyme de disparition approuvée par l'État. La police kényane a nié être impliquée dans ces disparitions. Au total, 29 des 82 personnes disparues depuis le mois de juin recensées sont toujours introuvables, estime la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya. Acculé par les défenseurs de droits humains et plusieurs figures politiques, M. Ruto a promis vendredi de mettre fin aux enlèvements.
En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué pour la première fois dimanche l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sassal en le qualifiant d'imposteur envoyé par la France. Critique du pouvoir algérien, M. Sassal, 75 ans, né d'un père d'origine marocaine et d'une mère algérienne, est incarcéré depuis la mi-novembre pour atteinte à la sûreté de l'État et se trouve dans une unité de soins depuis la mi-décembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des hommages à l'ancien président américain Jimmy Carter, mort à 100 ans, des États-Unis à la Chine. Carter salué dans le monde pour son engagement en faveur de la paix et des droits humains. Alexandrine Olignon.
L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire, ont réagi le président américain Joe Biden et son épouse dans un communiqué. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a décrété le 9 janvier journée de deuil national. Le président élu Donald Trump a salué un prédécesseur qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains. Le pape François a souligné la foi chrétienne profonde de Jimmy Carter et son engagement pour le bien-être des pauvres. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est allé dans le même sens en saluant la solidarité de l'ancien président avec les plus vulnérables. La Chine a exprimé ses profondes condoléances au premier président américain à reconnaître la République populaire de Chine. Le président français Emmanuel Macron et le monarque britannique Charles III ont salué un défenseur des droits des personnes les plus vulnérables et un homme engagé qui a consacré sa vie à la promotion de la paix et des droits de l'homme. Le président ukrainien, israélien, panaméen figure également sur la liste des dignitaires mondiaux ayant rendu hommage à Jimmy Carter.
Les États-Unis vont débloquer une aide supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour l'Ukraine, pour sa sécurité, a annoncé aujourd'hui le président Joe Biden, à moins d'un mois du terme de son mandat et de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Washington va également débloquer 3,4 milliards de dollars au titre de la loi des crédits supplémentaires pour la sécurité de l'Ukraine de 2024, a déclaré dans un communiqué la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, portant par conséquent l'aide à 5,9 milliards de dollars. L'Ukraine a rapatrié 189 prisonniers de guerre lors d'un échange avec la Russie, a déclaré aujourd'hui le président ukrainien. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré que les deux pays avaient échangé 150 prisonniers.
Aucune explication n'a été donnée pour expliquer la différence entre les chiffres annoncés. Les prisonniers russes ont été libérés sur le territoire biélorusse et seront transférés en Russie, a dit le ministère russe de la Défense. Et puis, en Corée du Sud, les enquêteurs ont demandé à la justice d'émettre un mandat d'arrêt contre le président déchu, Yoon Suk-yeol, après que ce dernier n'a pas répondu à leur convocation, à celle de la police pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, a déclaré un responsable ce lundi. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute s'écho avec Nani Kalani.
Au Sénégal, les députés ont adopté ce week-end le budget de l'État 2025 qui, en recettes, s'élève à 5 014,3 milliards de francs CFA contre 4 915,2 milliards en 2024. Ces dépenses sont estimées à 6 614,8 milliards de francs CFA contre 5 755,4 milliards en 2024. La loi de finances prévoit une croissance du PIB de 8,8%, incluant les recettes générées par le démarrage de la production d'hydrocarbures. Les exportations de café de l'Ouganda ont chuté de 6% le mois dernier par rapport à novembre 2023 en raison d'une mauvaise floraison précoce. Kampala a expédié 400 536 sacs de 60 kg et les revenus ont augmenté de 54% pour atteindre 109 millions de dollars grâce à la hausse des prix mondiaux du café causée par la sécheresse au Brésil et au Vietnam. Pour terminer, l'Égypte a testé avec succès un nouveau tronçon de 10 km près de l'extrémité sud du canal de Suez, alors que ses revenus ont diminué en raison des attaques des militants houthis sur des navires en mer Rouge. Après l'incident de l'Ever Given en 2021, l'Égypte a accéléré l'extension du deuxième canal et l'élargissement de l'existant afin d'ajouter 6 à 8 navires supplémentaires par jour et d'améliorer la gestion des urgences.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En Angleterre, Mohamed Salah mérite le qualificatif de joueur extraordinaire selon l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot.
L'ailier égyptien affiche des statistiques exceptionnelles de cette saison en Premier League. Il en est à la fois le meilleur buteur 17 buts et le meilleur passeur 13. Mo Salah a mis un but et délivré une passe décisive au moins dans 8 matchs différents cette saison, ce qui est un nouveau record sur un même exercice en Premier League. L'Égyptien de 32 ans, dont le contrat s'achève en juin, a affirmé qu'aucun dénouement positif n'était à atteindre prochainement concernant une éventuelle prolongation.
Sergio Conceição est le nouvel entraîneur de l'AC Milan.
L'entraîneur de 50 ans a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026, a indiqué dans un communiqué l'AS Milan, qui est distancé dans la course au titre avec 14 points de retard sur le leader, l'Atalanta Bergame. Conceição connaît la Serie A pour y avoir évolué comme joueur de 1998 à 2004 sous le maillot de la Lazio, de Parme et de l'Inter Milan. L'ancien international portugais était libre depuis son départ du FC Porto, club qu'il a entraîné de 2017 à 2024, remportant 3 titres de champion et 4 coupes du Portugal.
NBA, les Pacers s'imposent chez les Celtics. Bagarre Houston.
Les Pacers ont pu compter sur les 31 points de Tyrese Haliburton pour s'imposer à l'extérieur sur le parquet du champion en titre Boston 123-114. Les joueurs de Rick Carlisle ont pris une revanche symbolique sur leur large défaite en finale de conférence Est la saison dernière contre les Celtics, 4 matchs à rien, ainsi que sur le lourd revers subi vendredi à Boston, 142-105. En 36 minutes, Haliburton a également réussi 6 rebonds et 7 passes décisives sans aucune perte de balle. Au classement de la conférence Est, Boston reste en seconde place derrière Cleveland et Indiana demeure solidement au 8e rang.
Le chaos de la fin du match à Houston.
Les esprits se sont sérieusement échauffés à Houston à la fin de la victoire du Heat sur les Rockets 104-100. L'arrière de Miami, Tyler Hero, a marqué 27 points avant d'être expulsé lors d'une bagarre sur le banc qui a vu 6 personnes expulsées. Le Heat menait 99 à 94 lorsque le remplaçant des Rockets, Amen Thompson, a projeté Hero sur le terrain à 35,7 secondes de la fin du match. Les deux joueurs ont été expulsés comme Terry Rozier, Miami, et Jalen Green, Houston, ainsi que l'entraîneur des Rockets, Ime Udoka, et son assistant Ben Sullivan.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'ancien président Jimmy Carter est décédé à l'âge de 100 ans. Ken Farabao de la VOA a longuement couvert la vie de l'ancien président et sa carrière post-présidentielle en faveur de la santé et de la démocratie dans le monde. Il revient sur l'héritage du 39e président des États-Unis dans ce reportage repris par Alexandrine Ollignon.
Lorsque Jimmy Carter a prêté serment le 20 janvier 1977, il a promis un gouvernement aussi bon que son peuple.
Il ne peut y avoir de tâches plus nobles ni plus ambitieuses pour l'Amérique en ces jours, de nouveaux départs, que de continuer à façonner un monde juste et pacifique.
Un monde qu'il a continué à façonner au-delà de son unique mandat à la Maison-Blanche. Il est devenu lauréat du prix Nobel de la paix et a dirigé le Centre Carter, une organisation mondiale à but non lucratif, dont la mission est de faire régner la paix, combattre les maladies et construire l'espoir.
Je considère le travail du Centre Carter comme une extension de ce que j'ai essayé de faire en tant que président.
Carter est né à Plains, en Géorgie, en 1924. Diplômé de l'Académie navale des États-Unis en 1946, il a servi comme officier sous-marinier avant de retourner à Plains en 1953 pour gérer la ferme familiale à la suite du décès de son père. Carter est entré en politique pendant le mouvement des droits civiques des années 1960, exerçant deux mandats de législateur en Géorgie avant de devenir gouverneur de l'État en 1971. De gouverneur sudiste inconnu en 1971, Carter est devenu le candidat victorieux à l'élection présidentielle de 1976, battant de justesse le républicain Gerald Ford, la médiation des accords de Camp David en 1979 et le traité de paix entre l'Égypte et Israël ont constitué l'apogée de la présidence de Carter.
Lorsque je suis devenu président, il y avait eu 4 guerres entre Arabes et Israéliens au cours des 25 années précédentes, avec les Égyptiens à la tête du mouvement soutenu par l'Union soviétique. C'était le seul pays qui pouvait vraiment défier Israël militairement.
Carter a également négocié un traité rendant le contrôle du canal de Panama au Panama et a établi des liens diplomatiques complets avec la République populaire de Chine. Mais la révolution islamique de 1979 en Iran allait changer le cours de sa présidence avec une crise des otages qui aura marqué sa présidence. Carter a également été confronté à des difficultés sur le plan intérieur. L'inflation et la hausse du chômage ont entravé l'économie, contribuant à sa défaite électorale de 1980 face au républicain Ronald Reagan. Le 20 janvier 1981, jour de l'investiture de Reagan, l'Iran libère enfin les otages américains. Carter, vaincu et déprimé, retourne à Plains pour préparer sa bibliothèque présidentielle.
J'ai imaginé que ce serait une toute petite chose où j'aurais un bureau et quelques beaux bâtiments à Atlanta.
Il est devenu bien plus que cela. Organisation mondiale à but non lucratif bien connue, le Centre Carter a surveillé plus de 100 élections et a servi de médiateur dans des conflits, allant d'une impasse nucléaire avec la Corée du Nord en 1994 à un accord de paix entre l'Ouganda et le Soudan. Le centre promeut également la santé et lutte contre les maladies dans les régions les plus pauvres de la planète. L'éradication de la maladie du ver de Guinée a été l'un de ses principaux objectifs.
Dans l'histoire de l'humanité, une seule maladie a été éradiquée, la variole, il y a plus de 30 ans. Le ver de Guinée sera donc la deuxième maladie de l'histoire à être éradiquée de la surface de la Terre.
Le travail de Carter en faveur de l'humanité l'a conduit à Oslo, en Norvège, en 2002, où il a accepté le prix Nobel de la paix. Carter a mené une vie active jusqu'à l'âge de 90 ans, survivant à un cancer du cerveau en 2015. Mais sa santé déclinante l'a contraint à rester confiné dans sa ville natale de Plains pendant les dernières années de sa vie. Jimmy Carter est apparu pour la dernière fois en public lors des funérailles de son épouse Rosalyn en novembre 2023.
Pour savoir son héritage en Afrique, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU, qu'il a personnellement connu.
Je l'ai connu deux occasions. Après le Burundi, en 1995, le président Carter, qui avait créé sa fondation à Atlanta, avait demandé au secrétaire général des Nations Unies de « Je viens de voir Atlanta pour parler des crises africaines ». Parce que le président Carter était fondamentalement pour la paix. Et c'était une occasion donc, les Nations Unies ont accepté que j'aille lui rendre visite à Atlanta. En plus, j'étais très proche de son ambassadrice à Bruxelles, Anne Cox-Chambers, et il m'a reçu, et il était absolument préoccupé par la violence, en particulier le génocide des Tutsis au Rwanda, mais content du travail que j'ai fait avec mes amis du Burundi pour éviter une pareille situation. Donc, il m'a reçu à son bureau, la fondation, à l'université. Mais plus tard, on est resté en contact. Et le 18 octobre, je le regarde parce que j'ai la date devant moi, le 18 octobre 2002, il m'a envoyé un mot de remerciement pour le soutien. J'étais parmi les gens qui soutenaient, sans bien sûr qu'il le sache au départ, sa candidature, notre proposition, nous qui reçoivent le prix Nobel de la paix. Et quand il l'a reçu, que nous l'avons tous félicité, remercié, il m'a envoyé une lettre le 18 octobre 2002. J'étais à Washington à l'époque, à la Coalition mondiale pour l'Afrique.
Et c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de la santé en Afrique.
C'était un grand homme. Pour nous, Africains, d'abord, c'est le premier qui a visité le continent. Mais mon souvenir le plus frappant, en dehors de ce que je viens de dire, c'est la préoccupation qu'il avait pour la lutte contre les vers de Guinée. C'était le Mali, le Burkina Faso, une partie de la Côte d'Ivoire. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, il a travaillé étroitement avec le général, le président Toumani Touré, ATT. Et je pense aussi qu'il a rendu visite à Blaise Campore, parce que les vers de Guinée étaient une catastrophe. Et on doit lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour ces régions.
Sa fondation a également œuvré pour le renforcement de la démocratie en Afrique.
Absolument. J'ai travaillé avec plus tard. Sa fondation était pour la promotion de la paix, de la tolérance et de la démocratie. Et il avait une série d'observateurs des élections, des transitions. J'ai dirigé des missions en Tunisie, par exemple, mais aussi dans toute la région. Mais ce qui me frappe le plus en dehors de l'intérêt pour l'Afrique, c'est son extrême modestie comme président, son extrême modestie président de sa fondation, président des États-Unis. Le souci qu'il a du sort des populations, des gens fragiles, des États fragiles, c'est un très grand monsieur.
Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Plus de docteurs dans les hôpitaux publics de la République démocratique du Congo, et ce depuis samedi dernier. L'un des principaux syndicats de médecins annonce avoir durci la grève, entamée en octobre, faute de réaction concrète du gouvernement. Eddy Sango a joint le secrétaire exécutif du SINAMED, le syndicat national de médecins, Dr Patrick Boloko.
C'est depuis samedi 28 décembre que nous avions radical, ça veut dire que les médecins ne vont plus être dans les hôpitaux. Les médecins vont rester chez eux à la maison et tous les malades qui ont été hospitalisés vont être renvoyés dans des hôpitaux privés et il n'y aura que 2 hôpitaux par jour qui vont s'occuper que des urgences. Et là, c'est sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa et toute l'étendue de la République, sauf les provinces en état de siège.
Et là, c'est combien d'hôpitaux qui sont concernés par cette grève? Vous avez une idée?
Non, c'est tous les hôpitaux. Il n'y aura pas de travaux. Les médecins vont rester chez eux parce que le gouvernement n'a pas honoré ses propres engagements. Les médecins ont gardé les services minimum pendant 2 mois, croyant que le gouvernement pourra répondre à nos exigences. Mais le gouvernement qui a promis, et comme vous le savez, monsieur le journaliste, le président de la République a annoncé solennellement que les médecins avaient reçu ce qu'on leur avait promis depuis le 12 décembre, mais cela n'a pas été effectif jusqu'à aujourd'hui. Les médecins en ont tellement marre parce qu'ils ont fait confiance à ce gouvernement et le gouvernement ne fait que nous dribbler.
Qu'est-ce que vous revendiquez, vous, les médecins, exactement?
Ce que nous revendiquons, c'était ce qui a été signé à Bibwa le 19 octobre 2024. C'est-à-dire que nous devions évaluer l'accord qui a été signé. 1, il fallait qu'on aligne 1000 médecins. 2, il fallait qu'on paye les médecins qui ont déjà été payés, qui ont toujours été payés à leur grade actualisé. Et 3, il fallait qu'on paye les logements, les troisième palier des logements et le transport. Et cela n'a pas été effectif.
Vous avez commencé votre grève depuis le mois d'octobre. Est-ce que vous tenez compte des conséquences? Vous tenez compte de votre serment d'Hippocrate? Est-ce que vous tenez compte des dégâts que cela peut permettre?
Monsieur le journaliste, comme vous le savez, Hippocrate qui a écrit les serments, il a aussi écrit les testaments d'Hippocrate qui disait que le médecin doit avoir un embonpoint, un juste embonpoint, le médecin doit avoir le plus beau parfum de la ville, comme vous le savez. Le médecin qui n'est pas bien nourri, qui n'est pas bien pris en charge, est-ce qu'il rendra très bien son travail? Je ne pense pas. Et la grève n'est que l'ultime. Nous, les médecins, nous commençons déjà par négocier d'abord. Nous lançons les préavis, nous négocions, nous déposons les cahiers de charge. Ce n'est que lorsque le gouvernement n'arrive pas à honorer. Et comme vous le savez, monsieur le journaliste, la population congolaise est la population de l'État congolais qui a le devoir de prendre en charge sa propre population en créant des hôpitaux, en mettant un bon système de santé, en engageant un personnel qualifié et à les rémunérer correctement. C'est ce que les médecins ne font que réclamer.
Où en êtes-vous exactement avec les négociations?
Le 19 octobre, le gouvernement et nous avons signé un document et un communiqué final qui reprenait les engagements du gouvernement de la République. Mais nous sommes passés à la fin du mois d'octobre, rien n'a été fait. À la fin du mois de novembre, rien du tout. Et on nous a appris que tout devait être fait en décembre ici. Et nous nous rendons compte que la fin de décembre passe, rien n'est effectif.
Docteur Patrick Kaboloko, secrétaire exécutif du SINAMED, le syndicat national des médecins en RDC.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonic, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tout dans RM Show, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique, super rapidos, Jablet, Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.